Alors, je sais pas, qu'est-ce que tu fais? Non. Bon, reste là. Voilà, ben, je sais pas, ils restent là, les petits. Bonjour à tous. Salut dans le nom de Jésus-Christ pour ceux que je n'ai pas vus. C'est une grande joie de se trouver ensemble pour ce deuxième dimanche de l'Avent, comme Hélène l'a expliqué, et de marcher ensemble jusqu'à la fête qui célèbre la venue de Jésus sur terre. Et si vous êtes là ce matin, c'est sans doute que vous savez déjà le message de Noël. Vous le savez que c'est Dieu qui est venu jusqu'à nous sur terre en la personne de Jésus. Et puis si vous ne le savez pas, c'est sûrement que Dieu vous a conduit ce matin à venir pour écouter ce message. Alors je nous invite à ne mettre aucune barrière qui nous empêcherait d'accueillir Jésus par sa parole dans nos cœurs. Parce que, vous savez, il n'y a pas de barrières qui ne sont pas franchissables pour Dieu. Aucune. La seule barrière pour Dieu, ce sont nos cœurs qui doivent s'ouvrir à sa parole. Et l'avant, c'est ça, c'est préparer nos cœurs à accueillir ce Jésus qui vient dans la crèche, mais qui vient pour une mission incroyable. Or, dans les évangiles, il nous est relaté qu'il y a quelqu'un qui a été envoyé pour préparer la venue de Jésus dans ce monde. Il s'agissait, on en a déjà parlé dans les premiers de l'Avent, de son cousin, ou c'est son cousin, Jean-Baptiste, fils d'Élisabeth et Zacharie. On a un petit peu raconté ça l'autre fois, comment était né ce Jean-Baptiste. Et relisons donc ce que disent les évangiles sur la préparation que fait Jean-Baptiste pour le peuple juif, pour les préparer à la venue de Jésus. Et quelles sont les leçons pour nous aujourd'hui qui voulons accueillir Jésus pour Noël? Et pour cela, nous lirons deux passages. C'est raconté dans trois des quatre évangiles, mais nous lirons le ministère de Jean-Baptiste dans l'évangile de Marc au verset 1 à 8, puis dans l'évangile de Luc au chapitre 3, versets 2 à 6. Avant, je vous propose de prier. Notre Père, notre Dieu, ouvre toi-même nos cœurs à ta parole. Tu es venu nous parler, tu es venu nous parler même en face à face pour ceux qui étaient là. Même moi, Seigneur, je ne suis pas digne d'annoncer tes paroles, mais c'est ta parole que nous voulons entendre ce matin, ce que tu as à nous dire. Alors viens dans mon cœur, viens dans nos cœurs ce matin. Amen. Donc faisons la lecture. Je vous propose donc ces deux passages. Marc 1, versets 1 à 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert. « Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. » Jean, c'est Jean-Baptiste, parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant, « Il vient après moi celui qui est plus grand et qui est plus puissant que moi, pardon, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Jusque-là dans l'évangile de Marc, et pour compléter, nous lirons Luc 3, versets 2 à 6. À partir du verset 2, et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. » Alors jusque-là, les deux passages de ce matin. Je vous propose de d'abord réfléchir à qui est Jean-Baptiste, comment les Juifs doivent préparer la venue de Jésus, comment nous, nous pouvons nous préparer à la venue de Jésus, et enfin, revenir ce qu'est le vrai cadeau de Noël. Hélène a beaucoup parlé avant, mais on se prépare aux fêtes, mais le vrai cadeau de Noël en Jésus. Alors, qui est ce Jean-Baptiste, à part qu'on ait vu sa naissance d'une femme qui était stérile, qui est une cousine de Marie, chez qui elle va habiter plusieurs mois pendant sa grossesse? On voit que c'est au tout commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Dans la Bible, il nous dit « au commencement de l'évangile de Jésus ». Donc ça fait partie de l'évangile, ce Jean. Ce n'est pas juste quelque chose de secondaire. Il dit « au commencement de l'évangile de Jésus-Christ ». Apparaît donc ce Jean, on l'a appelé après Jean-Baptiste, qui commence un ministère dans le désert. Alors, le désert en question, il y a de l'eau, parce que vous avez compris qu'il y a le fleuve du Jourdain. En fait, c'est une zone aride, désertique, dans la Judée. Et donc, ce n'est pas un désert au sens du sable du Sahara. C'est un désert où, en fait, il n'y a pas de maison et c'est relativement aride. Et ce Jean, il est un peu particulier quand même. La Bible nous dit qu'il portait des vêtements de poils de chameau ou de poils de bête. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. En fait, il vivait dans un endroit désertique. On dirait qu'aujourd'hui, c'est un ermite. C'était un ermite qui s'était mis à part et qui vivait de pas grand-chose. Sans doute pour s'approcher de Dieu, mais il avait reçu cet appel. Et cet appel, c'était qu'il devait baptiser les Juifs. C'est curieux, c'est que tous les gens, pourtant les Juifs de Jérusalem, de Judée, vont accourir pour l'écouter. Il est dit qu'ils viennent très nombreux. Et en plus, son message, si vous lisez la suite, il leur dit « race de vipère, changez de vie ». Enfin, il va un petit peu, comme on dit, nous les sermonner. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que je veux vous faire ce matin, mais je veux vous dire ce... Mais qui est ce Jean-Baptiste? D'ailleurs, ça vient dans la Bible. Qui est Jean-Baptiste? Et cette question est posée à Jésus. On voit une des réponses qu'il donne en Matthieu 11, 11. Il dit c'est un prophète, mais plus que ça, relisons Matthieu 11, 11. « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. » Vous imaginez, il est né d'une femme. Il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais, cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Est-ce qu'on a déjà médité ça? Si nous avons accepté Christ, nous avons accès au royaume des cieux. Et il nous dit que nous qui avons connu Jésus-Christ, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Et pourtant, il dit que c'est le plus grand des prophètes. Incroyable qu'il y a eu. Donc, Jean-Baptiste était un prophète qui annonçait la repentance pour le pardon des péchés. Et comme tous les prophètes, ce n'est pas lui qui s'est autoproclamé prophète. On voit qu'il a reçu une parole de Dieu qui lui demande d'aller faire cela dans le désert. Et c'est les gens qui viennent. Alors, concrètement, comment faut-il se préparer, ou plutôt, comment les Juifs doivent se préparer à la venue de Jésus sur terre? L'Évangile donc nous explique qu'il parcourait cette région désertique du Jourdain pour un baptême de repentance et de pardon des péchés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la repentance? J'ai simplement pris la définition du dictionnaire du petit Robert, parce que des fois, on utilise des mots, on utilise beaucoup, nous, le mot « repentance ». Alors, allez dans la rue, aller dans les, en disant il faut se repentir. On dit, mais attendez, qu'est-ce qui me raconte là? Alors, voilà une définition de Kirober qui me semble bien compréhensible. Se repentir, c'est ressentir le regret d'une faute avec le désir de ne plus la commettre et de la réparer. Voilà. C'est regretter quelque chose qu'on a fait, jugé de mal, comme une faute, et avoir envie de changer, de ne plus le commettre. On parle des fois de repentir, c'est aussi vouloir changer. Une conversion, on dit quand on rencontre Jésus. Et c'est quoi? Il dit pour le pardon, alors dans la Bible là, il est dit la rémission des péchés. Alors la rémission des péchés, toujours le petit Robert dit, c'est l'action de remettre, de pardonner les péchés. On pourra dire rémission, remettre, ils sont pardonnés. Voici ce qui nous est dit. Ce que Jean-Baptiste institue pour préparer la venue de Jésus, c'est donc un baptême, une fois pour toutes, parce qu'ils se font baptiser une fois dans l'eau du Jourdain, pour demander aux Juifs de manifester qu'ils regrettent leurs fautes, leurs différentes fautes, avec le désir de ne plus recommencer. Et il leur annonce qu'en échange, ils auront le pardon de Dieu. Voilà la préparation. Ça nous prépare au message de Jésus. Et les Juifs, parce que ça s'adresse aux Juifs, c'est un peuple particulier, c'est pas nous, ces Juifs, ils avaient reçu la loi de Dieu par Moïse, ils avaient reçu une révélation, c'est un peuple élu qui avait reçu, eux, une révélation qu'ils ont dans tout l'Ancien Testament, mais en particulier, ils avaient reçu de Moïse ce qu'on a appelé les 10 commandements, quelque part, c'est ce qui guidait leur vie. Donc ils savaient ce que c'était qu'une faute. Une faute, c'était désobéir, notamment aux 10 commandements. Et c'est bien aussi de savoir ce que c'est qu'une faute. Je vais les redire. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras aucune idole. Tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le mettre à part, pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras point. Alors, les Juifs, ils avaient une façon de demander pardon s'ils s'éloignaient d'un quelconque de ces commandements. Et plus loin dans ce passage, ce n'est pas seulement comprendre qu'ils ont fauté, mais c'est surtout ce qu'il leur demande Jean-Baptiste, une fois qu'ils sont fait baptiser dans l'eau, c'est de changer de comportement. Et ça, c'est dit dans la suite qu'il faut lire, que je ne vous ai pas lu, donc on peut aller lire dans Luc 3, 10, 14. Parce qu'il leur pose la question, mais alors qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Je regrette, j'ai compris. Mais qu'est-ce que je dois faire? Lisons Luc 3, versets 10 à 14. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vient aussi des publicains pour être baptisés. Donc il n'y a pas que des Juifs, il y a aussi des publicains. Ils lui dirent, maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Et aussi des soldats. Beaucoup de gens viennent. Je ne sais pas pourquoi ils viennent, ils sont attirés. Ils lui disent, et nous qui sommes soldats, nous qui sommes dans l'armée, qu'est-ce que nous devons faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. Oui, la repentance prêchée par Jean, elle implique un changement de notre façon de vivre, partager avec les plus pauvres, ne pas tromper les autres, ne pas mentir, ne pas essayer de dérober, d'extorquer, Il dit dans l'Ancien Testament, Dieu a horreur des balances fausses. Il leur demande l'honnêteté, la justice, peut-être des mots que notre monde ne veut même plus entendre. Ça paraît tellement quelque chose qui est anormal, mais ce qu'il leur dit, c'est d'être honnête, juste, serviable, d'aider les autres, de partager celui qui est dans le besoin. Dans un sens, ce que Jésus nous commandera, d'aimer son prochain comme soi-même. Alors nous, qui ne sommes pas ce peuple juif, mais nous, qu'est-ce que nous avons besoin de changer pour accueillir Jésus dans nos vies? C'est ça la question que je vous pose et que je nous pose ce matin. Qu'est-ce qu'on doit changer pour accueillir Jésus? Dieu sait que nous avons tous besoin de changer des choses dans nos vies. Je ne sais pas vous, mais moi, il y a beaucoup de choses que j'aimerais changer dans ma vie, sur mon comportement, sur mes irritations, sur mes peurs, sur mes paroles qui sortent et qui peuvent des fois blesser les autres. Et au travers de Jean-Baptiste, Dieu nous annonce ce matin, à nous, peuple païen, qu'il va falloir qu'il y ait des choses qui changent dans notre vie pour accueillir Jésus. On ne peut pas accueillir Jésus dans son cœur si on en veut à quelqu'un, si on a triché, si on est infidèle. Peut-être pour nous, c'est juste la force de demander pardon à quelqu'un. Et comme c'est difficile. Pour moi, c'est très difficile de demander pardon à quelqu'un. C'est difficile. Bon, ma femme dit souvent, je veux dire pourquoi j'ai fait ça. J'explique. Heureusement, j'ai une femme qui me dit, mais peut-être la seule chose à demander, c'est dire pardon. C'est ça. Ce que Jean-Baptiste nous demande pour préparer Jésus, c'est un changement dans notre vie de tous les jours. Il nous faut pardonner. Il nous faut, nous aussi, passer par ce baptême de repentance dont parle Jean-Baptiste. Et peut-être vous allez me dire, moi je veux dire le premier, j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que des fois mes paroles sont méchantes et j'aimerais vraiment qu'elles ne soient pas comme ça. Mais je l'ai dit. Je n'arrive pas à changer. Et comme l'apôtre Paul lui-même le dit en Romains 7, 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Waouh, c'est ça notre nature. On a une espèce de nature humaine, chacun différent, qui revient au galop. Je ne fais pas ce bien. Je le sais, le bien qu'il faut faire. Est-ce que tu ne sais pas? Je sais que chacun d'entre vous, vous savez, qui que vous soyez, ce que vous voudriez changer. Parce que vous savez que c'est le bien. Et vous savez ce qui ne va pas, qui est le mal. Et on n'a pas envie de dire ce qui est mal en nous. Mais je vais vous dire une chose et vous donner le vrai cadeau de Noël. Le vrai cadeau de Noël ce matin. Le vrai cadeau de Noël, c'est que cette préparation, cette repentance avait été prévue des siècles auparavant, avant la venue de Jean-Baptiste, par les autres prophètes. C'est le prophète Ésaïe qui est cité là, au verset 5. C'est une prophétie. C'est quoi une prophétie ? Une prophétie, c'est qu'elle va se réaliser. C'est pas quelque chose qui ne va pas se faire, parce que c'est un prophète qui l'a dit. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Et les chemins raboteux seront aplanis. Ça, c'est pour tous ceux qui appartiennent au royaume de Dieu. Si vous avez accepté Jésus-Christ, vous appartenez au royaume de Dieu. Eh bien, Dieu vous a fait la promesse qui va le changer. parce qu'il a été prophétisé, parce que vous avez fait cette démarche et vous l'avez fait d'un cœur sincère. Alors, oui, peut-être que ça semble difficile, qu'il faut aplanir ces sentiers. Il faut aplanir pour que Dieu puisse passer et il va falloir redresser tout ça. Et peut-être tu te dis encore plus ce matin, en m'écoutant ce que dit Jean-Baptiste, que tu l'aimerais, toi, aller redresser ces chemins, mais tu dis que c'est plus possible, que c'est trop tard, qu'il y a eu trop de choses qui ont déplu à Dieu, que tu t'es trop éloigné de Dieu, que tu n'as pas su faire le bien, qu'il y a des montagnes devant toi qui sont infranchissables. Eh bien, le Seigneur, Dieu, par Jean-Baptiste, te proclame cette vérité pour toi ce matin. Tes chemins tortueux seront redressés. Tes montagnes qui te semblent infranchissables seront aplanies. C'est pas toi qui vas le faire. C'est l'Éternel qui l'a dit, il va aplanir. Oui, notre nature humaine fait que nos peurs deviennent vite des montagnes infranchissables. Et parfois, franchement, en voyant des frères et des sœurs, oui, elles sont lourdes, elles sont difficiles, elles semblent impossibles à surmonter. Nos angoisses, nos doutes, nos difficultés, nos blessures, nos maladies, elles deviennent des montagnes infranchissables. Mais ce matin, je veux te dire ce que la parole de Dieu veut te dire. Toute montagne sera abaissée. C'est ça, le vrai cadeau de Noël. Le vrai cadeau, la bonne nouvelle de l'Évangile. Ce que c'est pas toi qui vas le faire, c'est que Dieu lui-même est venu en Jésus-Christ nous aider à changer et nous redresser toutes les choses qui entravent cette relation avec Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls à le faire. Tu ne seras plus jamais seul. C'est Jésus qui lui-même, par sa venue dans le monde, va t'aider à redresser. C'est Jésus qui t'aide à le faire. Par toi-même, tu n'y arriveras pas. Par toi-même, par contre, tu peux prendre, avoir conscience de ton péché, avoir conscience qu'il faut changer. Il faut juste demander, Jésus, aide-moi à changer. Tu l'as promis. C'est cela, le ministère de Jésus. Et c'est pour ça que nous sommes plus grands que Jean-Baptiste dans le royaume de Dieu. Parce que par Jésus-Christ, nos chemins seront aplanis. Alors si nous nous repentons et si nous acceptons Jésus-Christ par son sacrifice fait à la croix, c'est lui qui vient habiter chez nous. Et c'est cela la nouvelle expérience entre le baptême de Jean-Baptiste de repentance et le baptême de Jésus-Christ dont il est parlé en Marc 1:8. Marc 1:8 est clair. Le baptême que nous avons reçu n'est pas le baptême de Jean-Baptiste, c'est un autre baptême. Il est dit, moi je vous ai baptisé d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus lui-même va expliquer à un chef de la loi venu de nuit, Nicodème, le voir. Pour avoir la vie éternelle, que faut-il faire? Jésus répondit en Jean 3:5, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle de Noël. Et que Jean-Baptiste est venu annoncer. Comme les prophètes l'avaient annoncé des siècles auparavant. C'est que c'est Jésus lui-même, le Fils de Dieu, qui rendra droit nos chemins. C'est lui qui marchera avec nous pour nous conduire vers le Père. Jésus a dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Du coup, il faut lui confier notre route. Il faut lui laisser les commandes de notre route. Il faut s'abandonner à lui. Parce que notre propre route à nous, elle est toujours sinueuse, tordue. Mais la route de Jésus, c'est la route, c'est l'autoroute directe pour Dieu. C'est cela la grâce de Dieu dont on parle. C'est cela le cadeau de Noël qui va se révéler petit à petit du ministère de Jésus jusqu'à sa mort à la croix. C'est le fait que Dieu a envoyé Jésus pour que nos vies changent et parce que nous avons la vie éternelle si nous croyons en lui. Et c'est cela que conclut, que dit ce passage en Marc 3, 6. Ce passage ne dit-elle pas « Toute chair verra le salut de Dieu ». Toute chair. Parce que Jésus est mort pour tous, pour tous les païens, pour le monde entier. À tous ceux qui l'acceptent dans leur cœur, ils donnent l'autoroute vers Dieu. Même s'il y a des choses qu'il va falloir changer, même si faire, mais c'est juste cette repentance sincère, mais Dieu sera là. Oui, toute chair verra le salut. Et c'est le rôle de l'Église. L'Église de Jésus-Christ est venue pour annoncer le salut, être témoin auprès de toutes les nations. Tout le monde verra le salut, mais tout le monde n'aura pas le salut. Et toi, ce matin, où en es-tu? Est-ce que tu as accepté véritablement ce salut gratuit annoncé pour tous par la venue de Jésus? Si tu ne l'as pas encore fait, sache que Jésus t'attend. Il attend que ton cœur soit prêt. Il se tient patiemment à la porte et il frappe. Il frappe pour que tu ouvres ton cœur. Il a dit, il retarde sa venue parce qu'il attend que toi, tu répondes à son appel. Je me tiens à la porte et je frappe. Alors oui, si tu lui ouvres la porte, il y aura encore des chemins tortueux à redresser. Des montagnes à aplanir. Sans doute tu auras encore des peurs très grandes de l'avenir. Mais je te le dis ce matin, ne t'inquiète pas, car c'est Dieu qui t'aidera. Il sera avec toi. Il t'aidera à franchir chacune de ces étapes difficiles. Il sera avec toi tous les jours de ta vie et il sera à tes côtés. C'est ceci qu'il nous a promis. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est lui qui petit à petit t'aidera à redresser ces chemins tortueux avec amour, avec tendresse. C'est lui qui t'aidera dans les bons et les mauvais moments. Alors, si ce matin tu discerne cet amour infini de Jésus pour toi. Si grand qu'il a envoyé Jean-Baptiste annoncer la repentance, puis Jésus comme un petit enfant fait homme, mourir plus tard sur une croix pour tes péchés. Alors, ce matin, juste saisis cette grâce de ce nouveau Noël de Jésus venu pour toi dans la crèche. Repends-toi, prends cette route avec lui. Alors tes chemins rocailleux seront aplanis, tes montagnes seront abaissées. Il te guidera vers la vie éternelle, pour sa gloire. Et si tu ne sais pas tout à fait comment prendre ce chemin encore, n'hésite pas à venir nous voir, Hélène ou moi, à la fin du culte, ou d'autres frères et sœurs. Pour compris qu'on demande à Jésus comment répondre à cet appel de Noël. Je vous propose de prier un instant. Notre Père, notre Dieu, tu connais mon cœur ce matin. Tu sais où je m'assois, tu sais quand je me lève. Tu me connaissais dès avant ma naissance dans le ventre de ma mère. Tout ce que j'ai vécu dans ma vie, Seigneur, tu étais à côté. Oui, Seigneur, il me semble qu'il y a des montagnes, des chemins impossibles à franchir. Je sens que mon cœur est tortueux, mais je veux prendre vraiment ton aide, ta main ce matin. Ô Seigneur, enlève mes peurs, mes craintes. Sois avec moi ce matin. Et Seigneur, je veux accepter ton appel. Je veux changer ma vie. Je veux te demander de m'aider à changer ma vie. Et je sais que c'est toi qui vas me guider. Tu vas me guider vers cette vie nouvelle, cette vie éternelle. Et que je peux compter sur toi chaque jour. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour continuer ce temps,